Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h03 sur RMC, on est là dans Rotten sans flamme, c'est la deuxième heure de Rotten sans flamme. On se régale depuis 18h comme tous les jours de la semaine en mode Coupe du Monde. Alors on se régale pas toujours, on va pas vous mentir sur les matchs, mais sur les débriefs et sur les émissions et sur les briefs de matchs, franchement c'est pas mal, c'est pas mal. On passe une magnifique Coupe du Monde dans Rotten sans flamme, ici au Flora, dans la, d'une brasserie parisienne sur les grands boulevards à Paris, dans le 9e arrondissement. On est avec Benoît Costil, on est avec Benoît Boutron et on est avec Jean-Michel Larquet. Qu'est-ce qu'il y a?
Il fait beau, venez nous voir. Il fait il y a un orage à Paris. Venez vous réfugier en terrasse à la brasserie Flora, parce que là, arrosage automatique.
C'est l'été, c'est magnifique.
Ben Costil a ramené le temps breton ici à Paris, mais rassurez-vous, ça va s'arrêter.
Soleil et arc-en-ciel.
Exactement. Il fait beau plusieurs fois par jour. On rappelle que c'est la mi-temps.
Il vaut mieux qu'il arrive vite le soleil, parce que là, on est en scout. Je t'annonce,
ça c'est sûr. La Tchéquie mène 1-0 contre l'Afrique du Sud à la pause. Et je rappelle le programme de la deuxième heure. Il y aura un quiz à 19h45, tous contre Rotten. Oh bah, avec des excuses de Louis Gerbier auprès de Jean-Michel Larquet. On vous explique tout à l'heure.
Je n'ai pas d'excuses. Non, mais je veux pas d'excuses. Moi,
il
je
est
veux
fâché,
être rétabli dans mes droits. Autrement,
depuis
je
le quiz d'avant-hier, il est très fâché, Jean-Michel.
Il a perdu, Jean-Michel.
Tous expliquer. Oui, t'as raison. Oui,
le cadeau, c'est un téléviseur Philips 50 plus 9000. Immersion totale avec une image fluide et détaillée pour vos matchs, vos films ou vos sessions de gaming. 32-16, touche 4 ou quiz au 7-32-16. Justement, tu parlais du bilan des matchs. On fera le bilan de la première semaine de la Coupe du Monde à 19h30 dans la VAR. Est-ce que vous êtes séduit par ce mondial? Et tout de suite, on va retourner sur le continent nord-américain, non pas aux États-Unis, mais à Toronto, retrouver Jérôme Sion. Salut Jérôme.
Salut Rotten sans flamme, salut tout le monde.
Jérôme, ravi de te retrouver parce que tu es à la pointe du dossier Eli Wahi. Vous avez certainement suivi ça sur rmcsport.fr. On craignait une mauvaise nouvelle pour la Côte d'Ivoire. Wahi qui était interdit de territoire au Canada pour le deuxième match des éléphants de Côte d'Ivoire face à l'Allemagne samedi à 22h. Tu as des nouvelles fraîches à nous apporter, Jérôme?
Exactement, et c'est une information RMC Sport. Eli Wahi peut voyager au Canada, c'est officiel. Son autorisation d'entrée sur le territoire canadien vient d'être validée grâce à un document fourni par le parquet de Marseille qui stipule que Eli Wahi n'est pas mis en examen et ne fait l'objet d'aucune poursuite dans l'affaire de Paris Sportif autour de Nice-Metz. Vous savez, ce volume de mise inhabituel qui entoure le carton jaune dont Wahi avait été sanctionné ce soir-là. C'était la 34e journée de Ligue 1. Les services d'immigration canadiens avaient formulé une demande d'information complémentaire à ce sujet auprès de la Fédération ivoirienne de football. Et donc, la Fédération ivoirienne a transmis ce document du parquet de Marseille qui stipule que Wahi n'est pas mis en examen, ne fait l'objet d'aucune poursuite. Et donc, c'est la bonne nouvelle pour l'attaquant de l'OGC Nice qui avait été entendu fin mai par la police française dans ce cadre-là. Il va pouvoir donc voyager avec la délégation des éléphants, s'envoler ce soir de Philadelphie à Toronto. Et il pourra donc affronter l'Allemagne samedi soir lors du deuxième match de groupe donc de cette Coupe du Monde. Wahi qui était titulaire lors du premier match du Mondial, remporté face à l'Équateur 1-0. Donc, excellente nouvelle pour les éléphants. Eli Wahi va s'envoler pour le Canada.
Merci Jérôme. On se retrouve tout au long de la soirée sur RMC et notamment pour suivre le Canada qui vibre pour cette Coupe du Monde organisée sur son sol. Ça vient de repartir à l'instant entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud, Corentin Roland.
1-0 pour la République tchèque. La Tchéquie, même maintenant, c'est comme ça qu'elle est appelée face à l'Afrique du Sud à Atlanta. Sadilek a trompé Ronwell Williams à la 6e minute de jeu. Alors les Bafana Bafana ont beaucoup frappé de loin mais n'ont cadré aucun tir dans cette partie. Mais attention, changement sud-africain à la pause, entrée de Mofokeng. Et si vous avez bien écouté les podcasts RMC dédiés aux 48 nations, il a été comparé à Neymar. Alors on va vibrer dans cette deuxième période. On est reparti depuis 50 secondes maintenant, 1-0 pour la Tchéquie.
Allez, 19h07.
Ça dépend qu'il la compare à Neymar.
Sur RMC.
Toujours pareil. Hein.
Jérôme, tout de suite, parlons de Ligue 1. Parce qu'à Marseille, on va devoir se serrer la ceinture.
On va voir quel est le sens de l'expression « se serrer la ceinture ».
Sanction financière de la part de l'UEFA, amende de 10 millions d'euros. L'OM devra donc réduire fortement ses dépenses.
Je déraille, frère !
C'est jamais là, c'est qu'on roule !
Nous sommes les Marseillais !
Cette expression, on l'utilise donc pour dire qu'une personne est obligée de réduire ses dépenses.
Tu sais très bien que dans le vestiaire, c'était la sinistrose. Le club et les joueurs, non, le vestiaire mais... était sur le toit du volcan.
D'accord.
Les passions qu'il y a à l'OM, qu'il y a à Marseille, plus qu'un club, je crois que c'est aussi applicable à l'Olympique de Marseille.
Je vais devoir réduire mes dépenses parce que je ne gagne plus beaucoup d'argent.
On en a marre. Chaque saison, c'est la même. Que des figures de poules, ça va.
Bande de chèvres, vous méritez même pas la Conférence League.
Corruption dans des championnats de merde.
J'ai envie de serrer, les gars. Comment c'est possible?
Il risque d'avoir une bulle spéculative et expansionniste, d'ailleurs. L'inflation risque d'être terrible. Elle l'est d'ailleurs à l'heure actuelle.
On l'attendait depuis des jours, le coup près européen est tombé pour l'OM. On craignait une exclusion de la Ligue Europa la saison prochaine. L'UEFA a finalement décidé de donner du sursis et une amende de 10 millions d'euros aux Marseillais. La commission accorde une année supplémentaire à l'OM pour endiguer les pertes et rééquilibrer les finances.
En route pour la deuxième étoile.
Rappelons également que l'OM a demandé un report de la date d'audition devant la DNCG pour préparer son dossier et s'adapter aux sanctions. Passage prévu mardi prochain.
Il
n'est jamais tranquille avec l'OM. Florent Germain à Boston. Salut Flo.
Salut les amis, salut à tous. Il y a des supporters qui crient moins que ça aussi à Marseille. Hein. La prod a choisi bien vraiment sûr. Les plus énervés. Hein. Mais bon, c'est le jeu.
Tu sais qu'il y a toujours
c'est
de l'exagération.
C'est le jeu, ma pauvre Lucette.
Flo. Ouais.
Ils sont graves, hein. Je te jure, Flo. Nous,
tu
on
fais
n'est
le
pas
point
comme
depuis
ça.
Boston sur la situation financière du club et sur le dossier de l'entraîneur. Quand est-ce que va arriver Bruno Genesio alors?
Écoute, c'est vrai que c'est une première étape importante quand même, le fait que Marseille puisse jouer la Ligue Europa, parce que forcément, même si c'est pas la Ligue des Champions, la Ligue Europa, ça reste une compétition assez attrayante, surtout qu'elle est assez relevée la saison prochaine. Et donc pour Bruno Genesio, c'est un poids en moins, le fait de savoir que l'OM sera en Europe la saison prochaine. Après, il y a l'autre étape, tu l'as dit, c'est la DNCG, parce que la DNCG aussi attend l'OM, ou en tout cas à l'OM dans le viseur, hein. On pourrait prononcer mardi, c'est pas impossible, par exemple un encadrement de la masse salariale, mais ça, à la limite, Marseille s'y attend et prévoit une cure d'austérité très clairement sur les prochaines saisons, beaucoup moins de dépenses. En fait, on a pris conscience, peut-être un peu tard d'ailleurs, hein, que l'OM a trop joué au poker ces dernières saisons, en recrutant avec toujours l'obligation derrière et la pression de se qualifier en Ligue des Champions, après devoir McCourt combler les pertes, et que ça, c'est plus possible, il faut plus de rigueur. Bruno Genesio, lui, ce qu'il veut aussi, c'est des garanties toutes simples en termes de staff. Selon nos infos, il aimerait arriver minimum avec 4 adjoints. C'est rien, hein, comparé à ce qu'avait par exemple un Roberto De Zerbi. Donc Bruno Genesio pourrait éventuellement avoir cet argument. Après, il est conscient que le recrutement, faudra être malin. Donc ça se fera de concert avec Grégory Lorenzi. Mais une fois que Marseille aura passé l'étape d'NCG, pour terminer, ils pourront débloquer certains dossiers, et notamment celui de Habib Bey, parce qu'il est toujours sous contrat avec l'OM jusqu'en juin 2027. Selon nos informations, son salaire de la deuxième année dépendait du classement de la saison passée, et puisque l'OM a terminé cinquième, les revenus ont forcément été revus largement à la baisse, et donc l'indemnité que l'OM va verser sera beaucoup moins importante. Ça devra se débloquer après le passage de la DNCG mardi.
Merci Flo, tu peux rester avec nous parce qu'il y aura besoin certainement de précisions financières. Dont on forcément s'attendre à une saison galère pour l'Olympique de Marseille. 32-16, hein, supporter marseillais, si vous voulez participer, avec Ben Costil, Captain Larquet et Jérôme Roten. Jérôme, est-ce que tu es déjà inquiet pour l'OM?
Non, je suis pas inquiet. Ils sortent d'une saison catastrophique, avec des tartes reçues quasiment tous les mois. Donc là, c'est un changement radical à la tête, à la direction de l'Olympique de Marseille, un nouveau président avec un nouveau directeur sportif, avec un nouvel entraîneur, avec un nouveau staff, avec certainement aussi, par la force des choses, un changement d'effectif. Et heureusement, je vais te dire. Alors, contraint, oui, on l'entend, parce que financièrement, ça va pas très fort. Donc il va falloir libérer certains gros salaires et les faire partir.
On pense à Greenwood, hein, qui devrait partir.
Ouais, mais pour autant, tu vas recréer un collectif différent. Et peut-être que, alors, la patience à Marseille, et je parle sous le contrôle de Flo, on sait très bien qu'il y en a pas beaucoup. Mais peut-être que, vu que c'est des passionnés de football dans cette région quand même, il faut leur reconnaître ça aux Marseillais, je pense qu'ils sont capables aussi de juger un effectif, une équipe qui sera pas jugée individuellement par leur force individuelle, mais plus par la force collective que va mettre en place Bruno Genesio quand il arrivera. Et donc
Moi, je suis pas plus inquiet que si il n'y avait pas eu de problème avec la DNCG et avec l'UEFA. Imagine, je vous pose une question. Moi, j'ai la réponse. Si il n'y avait pas eu ces problèmes avec l'UEFA, tu crois vraiment que Marseille aurait été capable de recruter des joueurs avec le même
donc
ça aurait pas changé la stratégie.
Bien sûr.
Aujourd'hui, quand tu as pris Lorenzi, qui connaît très bien le football français avec tout ce qu'il a fait.
C'est pour ça qu'il a été choisi d'ailleurs, parce que c'est le roi des bons coups aussi.
Ça sera lui il sera jugé comme ça.
Ouais.
Mais il y a pas de problème, il en a fait des sacrés bons coups à Brest. Là, on arrive à Marseille, c'est pas le même contexte, on est d'accord.
C'est
donc ce qu'il a fait à Brest, il peut pas faire du copier-coller à Marseille, c'est pas possible. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est pas interdit de tenter quelques coups et que ça marche.
Ouais.
Comme Lyon l'a fait avec le directeur sportif Mathieu Louis-Jean qui est venu. Franchement, le boulot qu'il a mis en place est remarquable. Aujourd'hui, il a une étiquette très forte de très bon directeur sportif. Ouais. Bah Lorenzi, il l'a. Déjà avec ce qu'il a fait à Brest, et ben pourquoi pas le continuer à Marseille. Moi, je vais te dire, il faut qu'il soit en total accord avec, en adéquation au niveau de la communication et au niveau de la stratégie sportive avec le président et avec l'entraîneur.
Ouais.
Et il n'y a pas de raison que ça se passe pas très bien, parce que Bruno Genesio l'a montré depuis pas mal d'années. Il est capable de s'adapter à n'importe quel dirigeant.
Voilà, oui. Voilà. Je vois à qui tu penses.
Exactement.
Jean-Michel, il y a aussi une histoire d'état d'esprit. C'est là qu'on attendra les Marseillais. C'est-à-dire qu'on verra peut-être moins de talent sur le terrain, mais on veut des joueurs engagés et qui sont prêts à se battre comme ça pour mettre en place ce que veut Genesio.
Ben oui, ça, c'est de la communication telle que le souhaitent les Marseillais. Pas du tout. Les Marseillais, aujourd'hui, j'attendais dans la présentation de Flo une bonne nouvelle. Je n'en ai pas entendu, hein, autant que je vous dise. Entre la seule, c'est ils avaient réussi à se qualifier pour la Ligue Europa. Ils font la Ligue Europa, c'est normal. Mais bon, entre-temps, ils prennent 10 millions, ils prennent 10 briques d'amende alors qu'ils sont argentés comme une chaîne de pluie, on me dit qu'il va falloir faire des coups, qu'il faudra être patient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'équipe à venir sera forcément moins bonne que celle qui est là aujourd'hui.
Ça veut dire que ça ne sera pas les mêmes objectifs que l'année dernière, Jean-Michel. En début de saison dernière, c'était de faire mieux.
Ça veut dire, si ce n'est pas les mêmes objectifs que la saison dernière, ça veut dire que l'OM va jouer ce championnat pour le maintien, pour se maintenir en Ligue 1.
Non, parce que l'objectif de l'année dernière, et on le sait très bien, parce qu'on en a fait
gars,
des tonnes et des tonnes,
gars,
c'était de se rapprocher du PSG. Je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette stratégie-là.
Mais comment voulez-vous, aujourd'hui, à un moment ou un autre, faire une bonne équipe sans aucun moyen?
Marseille, ça attire quand même. Jean-Michel, franchement.
Écoute, on est un club qui veut libérer un joueur de qualité. C'est pas parce que c'est Marseille qui va lui en faire un cadeau.
Non, ce que je veux dire, c'est la capacité de l'OM à vendre, parce que la priorité des priorités, ce sera de se séparer de certains salaires. Et effectivement, quand on regarde la liste des gros salaires de l'OM, je citais tout à l'heure dans le Moscato Show le cas de Geoffrey Kondogbia, à qui il reste encore un an de contrat, quand on flirte avec les 450 000 euros bruts par mois, bah écoutez, c'est vrai qu'on joue pas, c'est compliqué, c'est pour l'OM de s'en séparer. Donc ce sera la capacité de l'OM à vendre d'abord qui va déterminer éventuellement les coûts derrière à faire en capacité à recruter.
Flo, tu as pris l'exemple de Kondogbia. Moi, je veux bien. Mais qui va acheter Kondogbia à 750 000 euros par mois?
C'est ce que j'ai dit, justement. C'est que l'Arabie
Saoudite, le Qatar, l'Europe sera compliqué.
Après, il sera obligé de s'habituer si jamais on lui dit tu joues plus à l'OM.
Des clubs
son âge,
avec des moyens.
À 750 000 euros par mois. Je peux te dire qu'il va pas patienter un peu.
Et là où tu as raison, Jean-Michel, il y a aussi les saisons.
Soyez réalistes,
aujourd'hui. Non, mais même un bon club, on va dire, avec des moyens, aujourd'hui, il va pas prendre Kondogbia. En Europe, il prendra pas Kondogbia.
On est bien d'accord. Il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et il n'est pas le seul.
Mais pays exotiques, il peut y aller. Je sais pas, Benoît.
Pour moi, c'est l'exemple extrême. Vas-y, Benoît. Non, moi non, je trouve que c'est comme tu l'as dit à juste titre, pardon, je trouve que les ventes qu'ils vont faire seront primordiales en fait pour le futur de l'OM, et qu'après ils ont le directeur sportif le plus adéquat à la situation de l'OM, je pense, qui était habitué à travailler pendant 10 ans avec des moyens hyper réduits. Et malgré tout, il y aura quand même quelques moyens, quand même, en tout cas plus qu'à Brest, et l'OM reste quand même attractif.
Ah bah oui.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même plus facile de faire venir un joueur à l'OM.
La situation financière du stade de Brestois était meilleure que celle de l'Olympique de Marseille. Mais soyez réalistes, les gars.
Mais Jean-Michel, tu regarderas les salaires qu'il y aura à l'OM et à Brest, je peux te dire qu'il y aura un gouffre de différence quand même.
C'est vrai aussi.
Donc,
c'est bien ce que je vous dis. C'est bien ce que je vous dis.
Et juste Flo, tu voulais rajouter une précision, et est-ce que tu peux nous parler des justement principales valeurs marchandes? On entend parler de Greenwood qui pourrait signer par exemple à la Roma. Quels sont les joueurs qui sont les plus en partance?
Était épinglé aussi par le fair play financier, hein. Donc je ne sais pas si ça va retarder le dossier, mais c'est quand même à surveiller. Bah, les valeurs marchandes, il y a aussi le paramètre des salaires et d'alléger la masse salariale. Donc on parlait de Kondogbia, on peut parler de Højbjerg, qui est même à plus que 450 000, hein, il est quasiment à 500 000 euros brut par mois. Il y a le cas Naïef Aguerd qui peut être une valeur marchande, le cas Léo Balerdi, cite ces deux joueurs-là parce que c'est la contrariété quand même des derniers jours et des dernières semaines, parce que ce sont deux joueurs que l'OM espérait vendre avant fin juin et qui sont blessés actuellement. Naïef Aguerd un petit peu trop juste pour disputer la Coupe du Monde, Léo Balerdi qui s'est blessé au début du rassemblement, donc tout ça retarde un petit peu les plans. Et après, ce qui est malheureux, c'est que les valeurs marchandes, ce sont des joueurs qui viennent d'arriver à l'OM et qui, sur le papier, on pouvait se dire, tiens, la deuxième saison, ils vont peut-être pouvoir s'imposer ou en tout cas confirmer quelques matchs intéressants. Je pense à Quinton Timber, par exemple, qui vient à peine d'arriver, peut-être à Medina ou Pai Chao, qui ont été un peu sur le rodage la première saison, et la deuxième, peut-être qu'ils auraient fait du bien. En fait, tout le monde est sur le marché. Il suffit simplement qu'il y ait des offres. Ça, c'est très clair. L'OM donne la priorité à vendre des joueurs avant tout.
Et ben là c'est là aussi, parce que recruter, c'est bien beau, et je pense qu'il y en a beaucoup dans les rôles de directeur sportif qui peuvent recruter n'importe quel joueur, hein, dans tous les cas. Après, il faut sentir les coups et avoir une certaine vision globale sur ce que tu veux mettre en place avec l'entraîneur. Mais c'est surtout aussi trouver une porte de sortie à tous les joueurs que Flo, tu viens de donner.
Ça, c'est pas évident du tout.
Surtout les salaires qu'ils ont,
surtout quand tu as en face de toi quelqu'un qui sait que tu es obligé de vendre.
Exactement. Ouais.
La seule chose, Jean-Michel.
Les bonnes nouvelles, elles sont pas légion, hein, dans cette affaire-là.
La seule chose qui peut les aider et aider Lorenzi et l'Olympique de Marseille à transférer ces joueurs-là, c'est que ces joueurs-là n'aient plus du tout envie de rester à Marseille.
Ça aussi. Et qu'ils peuvent consentir à des efforts pour partir.
Parce que le problème, il peut aussi se poser.
C'est vrai.
Tu vois, je vais pas parler à la place de Pachao, mais je me mets à sa place. En effet, je suis d'accord avec Flo. Le poids du transfert, le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique de Marseille, je pense que ça l'a tué en termes d'image. Après, franchement, c'est pas le pire sur l'année. Le recrutement, il a fait des efforts. Tu sens que la mentalité, il l'a, il court, il fait des efforts. Peut-être pas dans le rôle où on l'attendait vraiment, mais en tout cas, je trouve que il a fait, on va pas dire une bonne saison, mais une saison moyenne par rapport à certains de ses coéquipiers. Le poids du transfert, peut-être que Pachao se sent bien à Marseille. Et qu'aujourd'hui, il peut avoir, parce que ce genre de joueur peut avoir une offre.
Ouais.
C'est possible, c'est bien totalement sûr. Possible. Mais peut-être qu'il est aussi capable de dire non, mais moi, j'ai pas envie d'aller là et là, je vais rester encore une année à Marseille, je vais m'endurcir. Et ça va pas faciliter la tâche de Lorenzi.
Et juste avant d'accueillir Mickaël, là où il y a une pointe d'optimisme pour toi, Jean-Michel, ce que je voulais juste te dire, c'est que, au final, la Ligue 1 est tellement faible que même avec une équipe moyenne, tu peux jouer les places européennes.
Non,
ça on l'a vu. Regardez Lyon, regardez tout ce qui s'est passé.
Arrête tes bêtises.
Monaco, ils n'ont pas gagné un match pendant deux mois, ils ont joué l'Europe.
Donc déjà, tu ouvres le parapluie. L'année prochaine, l'OM aura une équipe moyenne. Donc, ils finiront au milieu du tableau.
Mais c'est pas ce qui t'empêchera de faire l'Europe
l'année
après.
Une équipe moyenne à Marseille, elle ne finit pas. Une équipe moyenne à Marseille et une équipe moyenne à Lyon,
maintenant,
c'est pas la même chose.
Je peux te dire,
à Marseille, pour y arriver et pour exister, il faut quand même avoir des joueurs solides.
Salut, Mickaël.
Si t'as une équipe moyenne, tu vas pas exister dans le championnat.
Salut, Mickaël.
Bon.
Est-ce que t'es inquiet, Mickaël?
Honnêtement, je suis un PLS.
Ouais.
Ah non, c'est horrible. C'est une première année où il n'y a aucune communication autour du club. On ne sait pas le projet. Il y a un nouveau président qui est arrivé, on n'a jamais entendu le son de sa voix. Honnêtement, là j'attends, on parle de Pachao, c'est bien, mais avec qui autour?
Eh oui. Mais Michael, t'es en PLS par rapport à ce que t'entends ou par rapport à la deuxième étoile du PSG?
Oh là là, pas possible.
Non, honnêtement, j'ai envie de te dire, ça c'est bon. S'il y avait que la deuxième étoile du PSG, honnêtement,
ça va alors, ça me rassure.
Non, là je suis un PLS parce qu'en fait, mais justement, on n'entend rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Voilà, on ne sait pas, on entend oui, bah, on entend voilà, sur votre antenne avec Flo et compagnie, mais sinon, le club, à part dire qu'ils ont décalé la campagne d'abonnement, on ne sait pas ce qui va se passer. Honnêtement, moi je disais tout à l'heure au standard, un truc simple, si on a la 7e place l'année prochaine, on va être content.
La combien t'as dit?
7e.
Septième.
Bah, non, attendons de voir, Michael, quand même.
Ça dépend près des.
Michael, t'es abonné à l'OM?
Non. Ça fait quelques années que je ne suis plus à l'époque. La dernière fois où j'y étais, j'allais voir Benoît nous mettre 5-2 au Vélodrome.
D'accord.
Gagné 5-2 au Vélodrome?
Ouais, je m'en souviens. Ouais,
avec qui? Bordeaux.
Quand Ousmane Dembélé avait Yogourt Cuff et
avec Rennes.
J'avais fait une petite cagade d'ailleurs, je crois.
Ah, c'est pas possible, Ben.
Pour l'anecdote, parce que
j'allais le dire en déconnant.
Le grand nom d'RMC qui est Roland Courbis.
Ouais.
L'OM était dans une situation très difficile. Et avant le match, on dans la causerie, nous disait les gars, à mon aîné, cette équipe, avant en prendre 5. Quand, je sais pas, mais avant en prendre 5.
Ah, il est bon, Roland.
On commence le match, au bout de 30 minutes, il y a 3-0 pour nous. Les supporters commencent à monter sur les gradins et tout. C'était n'importe quoi. Et on gagne 5-2.
Un petit coucou à Benoît, parce que c'est moi qui t'avais fait les photos il y a quelques années pour une campagne pour un enfant malade.
Ah ok, d'accord, ok, très bien.
Et ben voilà, le message est passé. Merci Mickaël, beaucoup
si je peux terminer avec
d'autant plus.
Vas-y,
optimisme.
Il voulait une bonne nouvelle, capitaine.
Ah oui, on en veut,
bien sûr.
Michael explique qu'il s'est pas réabonné depuis quelques années. Moi, les échos que j'ai des virages et des groupes de supporters, notamment, c'est qu'ils ont été très surpris de l'engouement toujours présent pour avoir la carte d'abonné.
Ouais.
Puisque ça a débuté cette semaine. Là. Je rappelle que les tarifs sont vraiment assez peu élevés, hein, parce que c'est 250 euros Coupe d'Europe incluse. Ça veut dire que ça fait 17 donné, matchs plus 4, ça fait une vingtaine de matchs. Non mais c'est important de le dire parce que
c'est important.
Contrairement peut-être à ce que vous pensiez, que à Marseille on est totalement prêt à accepter une équipe qui va sur le papier être de qualité un petit peu moindre, mais en tout cas qui va défendre certaines valeurs, qui va pas bouger tous les mercato tous les 6 mois et à laquelle on va peut-être un peu s'identifier. Donc évidemment peut y avoir parfois le cliché de se dire à Marseille on est impatient. Honnêtement, à Marseille on en avait aussi un petit peu ras-le-bol de certains changements. Les Marseillais sont tombés de très très haut par rapport à ce qui s'est passé cette saison. Donc s'il y a une équipe un peu cohérente qui est montée, même à moindre coût, je pense qu'il va y avoir des supporters qui sont motivés.
Flo, moindre coût, mais Flo, je te remercie de m'avoir donné ce point de ce qu'il y a de plus, mais pour véritablement te rassurer, Flo, je connais un club. L'engouement des supporters est absolument remarquable. Mais il ne se dément pas, Flo. Et l'équipe est en Ligue 2.
Oui, mais ça va. Non, mais il joue les mauvais augures. Bon, Flo, en tout cas, profite bien
de
ta Coupe
Flo,
du Monde.
T'as sauvé la soirée de Jean-Michel.
C'est ta pause, c'est un trêve de la trêve équipe de France.
Merci, Flo.
Et bon courage.
Ne vous inquiétez pas, l'ami, on est là.
On se retrouvera rapidement pour
Allez, en route pour la troisième étoile.
On rappelle que la Tchéquie mène toujours 1-0 contre l'Afrique du Sud. On retrouvera Corentin Roland dans un instant. Et justement, dans un instant, on fait le bilan de la première semaine de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Est-ce que vous êtes séduit par ce mondial? 32-16 pour participer avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h. Roten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h31 sur RMC, on est là en mode live Coupe du Monde dans Roten sans flamme avec Benoît Boutron, avec Benoît Costil et avec Jean-Michel Larquet. Dans 15 minutes, ça sera le quiz de Louis Gerbier avec un super cadeau à vous faire gagner.
Ah, magnifique. Un téléviseur Philips 50 plus 9000. Immersion totale, image fluide et détaillée.
Coupe du Monde, c'est génial.
Les matchs, les films, les sessions de gaming, 32-16.
touche 4 ou quiz par SMS au 7.
On est en mode live, il y a le match. La Tchéquie qui mène 1-0 contre l'Afrique du Sud.
Eh bien, on y va avec Corentin Roland, tout à fait.
Corentin, ça bouge ?
Non.
Il est là, Corentin ?
J'ai entendu que vous alliez faire le bilan de la première journée. J'espère que ce match-là n'est pas un présage de la deuxième.
Non, celui-là, c'est la deuxième.
Oui, parce que c'est vraiment pas terrible. 1-0 depuis la sixième minute de jeu. Un but de Sadilek. Il y a eu plusieurs occasions pour la Tchéquie de faire le break alors que le jeu est en train de repartir après la deuxième pause fraîcheur. Mais voilà, une occasion manquée, notamment par Patrick Schick. En face, les Sud-Africains ne répliquent qu'avec des frappes lointaines qui souvent terminent leur course dans les nuages. On va noter quand même l'entrée en jeu de Pavel Schulz. Le Lyonnais à la 55e. Là, on est à la 72e. Donc, 1-0 pour la Tchéquie qui fait la bonne opération pour le moment face à l'Afrique du Sud.
Merci, Corentin. Tout de suite, c'est l'heure de faire le bilan de la première journée.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Mbappé la frappe ! But ! Il l'a fait ! Messi la frappe ! Le triplé de Léo Messi !
La tête d'Arrique ! Le capitaine qui prend ses responsabilités, le doublé.
Erling Haaland. C'est le ratio, il est respecté, Erling Haaland. Moins de 45 minutes et déjà deux buts marqués en Coupe du Monde.
La VAR de Rotten sans flamme.
Déjà une semaine de compétition, on vous l'a fait vivre sur RMC dans Rotten sans flamme. 24 des 104 matchs disputés, tous les premiers matchs de poule. Le 25e est en cours actuellement. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 bien lancée. On rappelle les polémiques liées au traitement réservé à l'Iran, les problèmes de visa, les pauses fraîcheurs. Mais des bonnes nouvelles aussi avec les stars qui sont au rendez-vous. On en parle avec Nicolas Pelletier qui nous rejoint. Salut Nico.
Salut Nico.
Salut les amis, salut à tous.
Sois le bienvenu Nico, c'est toi qui es chargé de nous faire le point d'étape après une semaine de compétition.
Ah, ça, c'est sûr. Eh oui, et on retiendra surtout Benoît les 75 buts, bien sûr. La FIFA est mon ami. On retiendra surtout les 75 buts inscrits lors de ces 24 premiers matchs de ce Mondial 2026, soit 3,12 buts par match en moyenne, un total très important pour vous donner un petit comparatif. En 2022, avec une Coupe du Monde à 32, bien évidemment, la moyenne des buts lors de la première journée du Mondial était de 2,56 buts par match, une augmentation de 21% lors de cette première semaine. Voilà. 41 des 48 équipes ont inscrit au moins un but et un seul match s'est fini par un 0-0, le fameux Espagne-Cap-Vert. On a aussi eu, tu l'as dit Benoît, des stars au rendez-vous avec Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que la plupart des stades sont pleins. Alors on n'est pas sur une ambiance exceptionnelle de Coupe du Monde, mais au moins le public est au rendez-vous. En 6 jours, 1,3 million de spectateurs ont assisté aux 24 premiers matchs. La FIFA a aussi le sourire car la Coupe du Monde cartonne à la télé partout dans le monde, des audiences très importantes en France. Aux États-Unis, les chiffres sont même historiques. La victoire de la Team USA a réuni 27,5 millions de spectateurs. Alors oui, il y a les points noirs, la question des visas, des pauses fraîcheurs à rallonge critiquées par les journalistes, les joueurs et les sélectionneurs. Pour tout vous dire, l'instance va faire le bilan à la fin de la Coupe du Monde sur ces pauses fraîcheurs. Mais on devrait quand même les revoir en 2030 lors de la prochaine édition. Et enfin, les nouveautés d'arbitrage n'ont pas été trop utilisées pour en faire un bilan. Donc on va surtout retenir que la nouvelle règle du changement rapide en moins de 10 secondes est quand même intéressante. Ça a permis de moins couper, même si on a eu les pauses fraîcheurs, ça a permis de moins couper les matchs. Voilà le premier bilan que l'on peut faire de cette Coupe du Monde à 48 équipes.
Merci Nico, c'était complet, reste avec nous. Êtes-vous séduit les gars par cette Coupe du Monde ? Jérôme, est-ce que tu te régales depuis le début de la compète ?
Écoute, oui. Oui, j'ai vu beaucoup de matchs. Alors bon, je vais pas te dire, nous on est en France, il y a un décalage horaire qui est
un peu dur.
Qui est dur, donc il y a des matchs à 3h du mat, tu piques du nez si tu veux les regarder et je préfère les regarder à l'arrivée le lendemain. Mais une fois que t'as dit ça, ça c'est mon petit plaisir perso. Moi je m'éclate parce que je découvre des joueurs. Alors d'autant plus cette année parce que la Coupe du Monde, il y a plus d'équipes. C'est vrai qu'on en parlait, le foot de nation, vu que tu as ouvert à des équipes qui n'ont pas forcément le meilleur niveau mondial, ça donne un niveau moyen qui a baissé. Mais il y a des buts, et Nico le disait, les buts sont rendez-vous. Quand on regarde un match, on a envie d'avoir du spectacle à travers des buts et de la créativité des actions. Donc ça, on est servi.
Un seul 0-0.
Il y a très peu, même les équipes qui sont faibles, elle se crée toujours des choses et puis elle reste focus sur le résultat. Regardez le Qatar, ce qu'ils ont obtenu contre la Suisse dans les dernières minutes.
Exactement.
Mais il n'y a pas eu que, il y a eu
le Japon contre les Pays-Bas.
Le Japon contre les Pays-Bas. Donc ça, c'est des équipes, si tu veux. Le scénario du match a fait que ça a rendu un match attractif et excitant. Après, on peut faire les mauvaises langues et dire oui, la pause fraîcheur, la ceci. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Maintenant, je me suis habitué. Bah, c'est si, comme ça.
Pas.
Je trouve que Jean-Michel, à travers cette pause fraîcheur que je ne comprends pas. Du moins, on sait pourquoi elle est là.
Ouais. Faire rentrer de la pub. Et
exactement.
De l'argent.
Maintenant, ce qui est bien, et Nicole l'a dit, pour le rythme du match, entre les relances du gardien où ils ont 10 secondes, sinon c'est un corner contre eux, et on l'a vu hier sur le match du Portugal.
Tout à fait.
Donc ça, c'est bien. Les changements en 10 secondes, même si on pourrait dire avec la poche fraîcheur, on ne comprend pas toujours, mais je trouve que c'est bien. Voilà, il y a des bonnes choses. Et puis surtout, et il l'a dit, les stats sont pleins.
Ouais.
Et ça, c'est quand même agréable quand tu regardes un match de voir qu'il y a une certaine ambiance dans les stades.
Jean-Michel, avec ta longue expérience, est-ce que tu te régales ?
Ben, la Coupe du Monde, c'est toujours un grand événement et il faut vraiment y mettre de la bonne volonté ou de la mauvaise volonté plutôt pour considérer qu'une Coupe du Monde, c'est quelque chose d'anecdotique. Donc pour moi, je suis évidemment ravi. Alors nul n'est parfait et surtout pas la Coupe du Monde et surtout pas la Coupe du Monde sur trois pays. Voilà, et surtout pas la Coupe du Monde où on fait des expériences sur le Coupe du Monde. Je pense qu'il y a suffisamment de matchs et suffisamment de compétitions pour faire des expériences, notamment des expériences arbitrales sur d'autres compétitions et qu'elles soient au point pour le tournoi principal. Mais en dehors de ça, alors les esprits chagrins considéreront que l'augmentation du nombre de buts, elle est due aussi à l'augmentation des équipes, et celles qui sont en appoint par rapport aux dernières compétitions sont forcément des équipes qui sont de moindre qualité.
Oui,
donc qu'il y ait davantage de buts, ça me semble évident. Enfin, il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre ça. Mais bon, on nous présente... Comme ils nous prennent pour des idiots, à la FIFA, ils nous font avaler des couleuvres. Une de plus. Bon, et puis il y a quelques petits problèmes d'arbitrage, mais sur la masse, que la décision de Monsieur Marcignac considérant Messi,
je pense qu'on n'en a pas parlé, mais là il y avait scandale.
Je pense qu'elle va pas lui apporter une bonne note et que ça m'étonnerait beaucoup qu'il redirige la finale de la Coupe du Monde comme il l'a redirigé, et l'arbitre australien, s'il n'y a pas pénalty sur Mbappé, eh bien il faut revoir la loi sur les coups francs directs à l'intérieur de la surface de réparation. Voilà.
Ben, est-ce que tu te régales ?
Il y a des choses que j'aime bien, d'autres moins. Ce que j'aime aujourd'hui, c'est le parcours et la qualité et la progression des équipes africaines, je trouve.
C'est vrai.
Je me suis régalé avec le Cap-Vert, aller voir défendre. Alors, des fois, il y en a qui se font chier à regarder. Moi, j'ai pris plaisir à aller voir batailler comme ça contre l'Espagne. J'ai pris plaisir à voir le Maroc. Je prends plaisir à voir Kouroussa, c'est ça?
Kouroussa,
la joie qu'ils y mettent, j'aime beaucoup.
Après, ils ont pris 7.
Je vous dis sincèrement, moi je pense que si j'étais pas avec vous sur RMC, je suis pas sûr que je serais hyper hypé par la compétition.
Ah ouais? Parce que t'es dans la meilleure émission de France que tu
t'intéresses. Non, mais là je regarde parce qu'il faut regarder.
Je t'ai sauvé ta vie, encore une fois.
Putain, merci, je vais te ramener à Carmel.
T'es déjà blasé.
Non, c'est pas ça, mais je te dis, si j'avais pas RMC, pourtant j'adore le foot, je kiffe le foot, je sais pas si je serais vraiment hypé par la Coupe du Monde.
J'aurais regardé quoi? Quelques chocs, quoi.
J'aurais regardé quelques matchs, bien évidemment.
Sénégal, Brésil, Maroc.
Des matchs comme ça, mais j'aurais pas regardé comme je regarde là, je vois Angleterre pas une atmosphère de fou dans Paris.
Non,
ou,
ça c'est vrai.
Ou quoi que ce soit, je vois pas. Il n'y a pas une odeur de Coupe du Monde.
C'est lié aussi à la décalage horaire et tout ça. Ça c'est
certainement
sûr.
Donc c'est ça plutôt que j'aime un peu moins. Alors peut-être que dans les provinces, les petites communes.
Non, mais peut-être aussi que quand la phase d'élimination directe va arriver, tout va changer.
Là, on est bombardé de matchs, les horaires ça saoule à un moment donné.
Ah oui. Là, ça sera plus facile.
La nuit, c'est pas facile, donc voilà.
Plus facile à suivre. Retournons d'ailleurs sur le direct parce qu'on se dirige vers une deuxième défaite en deux matchs des Sud-Africains face à la Tchéquie, Corentin Roland.
Oui, ils sont menés depuis la sixième minute de jeu et n'arrivent pas à renverser. Là, ils tournent autour du but tchèque de Matej Kovar sans parvenir vraiment à se procurer des grosses occasions. Et en effet, la Tchéquie proche de remporter son premier succès dans cette Coupe du Monde, tandis que les Bafana, qui on le rappelle, n'ont jamais passé un tour de leur histoire en Coupe du Monde, là, sont au bord du précipice avec une deuxième défaite. Il reste 10 minutes plus le temps additionnel et la Tchéquie mène toujours 1-0. Face à l'Afrique du Sud.
Merci Corentin. La fin de match dans un instant dans Rotten sans flamme et le quiz de Rotten sans flamme, tous contre Rotten, avec Ben Costil, Jérôme Rotten et Captain Larquet à penalty entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud.
Oui, le penalty sur une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Je crois que c'est Pavel Schulz qui touche ce ballon du bras, lui qui est entré en jeu à la 55e minute. Et là, il est venu contrer le ballon. Alors, j'attends de voir les ralentis. Ce qui est sûr, c'est que Madame Penso, qui est la deuxième arbitre, d'ailleurs femme, a arbitré un match de Coupe du Monde, n'a pas hésité longtemps avant de dégainer. Alors, ça part d'un ballon. Pavel Schulz, il sort un peu bras en avant pour contrer la frappe de Maseko. Alors il essaie de se protéger, de retirer son bras, mais il la touche de la main, ça c'est certain.
Non, pas main les gars. Il y a peine, Jérôme.
Il y a main.
Bravo madame.
J'ai cru qu'elle avait fait une frappe art, mais non, en fait non. Donc non, elle arbitre bien.
Et donc opportunité pour l'Afrique du Sud d'aller égaliser dans ce deuxième match de poule.
Très important parce que c'est peut-être le premier but dans cette Coupe du Monde de l'Afrique du Sud, battue 2-0 par le Mexique qui avait perdu un peu ses nerfs avec ses deux exclusions. Là, le match il était compliqué parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y avait beaucoup de frappes dans les nuages. Oui, faudra pas faire comme les frappes de loin parce qu'elles ont terminé très très haut parfois.
C'est pour ça que je te dis ça.
Dans le Mercedes-Benz Stadium. Et là c'est Mokoena, oui en effet, qui ne jouera pas le match prochain parce qu'il a pris deux cartons jaunes. Lui fait partie de ces joueurs très agressifs justement sur ce début de Coupe du Monde.
S'il est agressif avec le ballon comme ça, il va pas marquer.
Teboko Mokoena, donc joueur de Mamelodi Sundowns, qui est l'un des clubs principaux.
C'est lui qui tire,
du championnat sud-africain.
Allez, vas-y, Corentin, vas-y.
Oui, il est en train de s'élancer. Matej Kovar, attention, parce que Matej Kovar, il avait arrêté trois pénalties même lors des séances de tir au but, lors des barrages pour qualifier. Tchéquie, Mokoena, donc, va s'élancer avec son pied droit face à Matej Kovar. C'est croisé et ça rentre. Il trempe à contre-pied Mokoena. Le gardien Kovar, pénalty parfaitement exécuté. Il ne l'a pas mis dans les nuages, il l'a mise au fond. Un partout donc. La 84e minute entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud.
Et la fin de match dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme avec Louis Gerbier. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h46 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme et on finit l'émission les 10 dernières minutes. C'est le quiz de Louis Gerbier comme toutes les fins d'émission. On est toujours en direct aux États-Unis avec ce Tchéquie Afrique du Sud, un partout pour l'instant. Il reste 5 minutes, donc ça sent pas bon pour la Tchéquie. On est avec Benoît Costil, avec Jean-Michel Larquet qui vont former une belle équipe. Benoît Boutron sera là et puis deux auditeurs. On y va,
c'est parti.
RMC, tous contre Rotten.
Il est attendu, le pied ferme. Louis Gerbier est là, salut Louis.
Salut l'équipe.
Ça va Louis?
Bah oui, mais il paraît qu'il faut faire son mea culpa.
Mais alors, pourquoi? J'ai pas compris.
Il
ça.
Paraît qu'il y en a certains qui ont mal vécu une défaite.
Et qui
c'est
alors?
Mais quoi? Je sais pas.
Mais ça, pourquoi en fait?
Ça chouine.
Mais à coup pas de quoi?
Mais tu penses à qui par exemple?
Bah moi je pense à personne, on m'a dit que.
T'as fait une erreur?
Ah moi non, jamais. Déjà j'en ai jamais fait. La dernière c'était en 2003 je crois. Donc voilà quoi.
Alors Ben a dit bonjour à Louis, Jérôme a dit bonjour à Louis, Jean-Michel, on t'a pas entendu? Non mais il parlera pas, tu peux pas excuser, excuse-toi.
Mais excuse-toi, pourquoi?
Mais de quoi? Parce que sur le quiz de France-Sénégal, il a dit Camara avant Jérôme, il fallait dire prénom et nom. Louis l'a pas précisé,
perdu. Louis l'a précisé.
Non, il l'a pas précisé.
Alors je l'ai peut-être pas précisé, mais bon.
Mais ça me paraît logique.
Non, tu l'as pas. Tu as toujours des approximations. Peut-être pas. Non, tu ne l'as pas précisé. Non mais il faut que je te raconte, Ben, on menait 5-0, la roue. Qui est une pure invention, a remis le compteur à zéro. On a donné la bonne réponse.
La roue est devant nous.
Ah oui, je comprends ton ressenti, Jean-Michel.
Ah voilà. Et on a donné. Donc on a donné. Ça faisait 6-0 et on a quand même perdu.
C'est la magie.
Alors, allez, vous affrontez ce soir pour un magnifique cadeau. Christophe et Julien, salut à vous deux.
Allez, Christophe.
Salut. Salut.
A gagné une télé Philips magnifique, immersive, de dernier cri. On y va, Louis. Quelle est la thématique du quiz? Avant, on donne les équipes. Julien, tu veux jouer avec Jérôme ou le reste du monde?
Avec Jérôme, bien sûr.
Allez, Julien avec Jérôme, Christophe
bien sûr,
avec Jérôme.
Bien sûr, on les prend de haut, ça c'est
le
beau.
Le reste du monde, ça va le faire.
Ah, excellent, bravo Christophe.
Bravo Christophe.
Allez, c'est parti.
Allez, on te souhaite un grand courage.
Le thème du soir, vous en avez parlé en première heure, c'est un petit joueur, un petit jeune, la CR7.
Ah ouais, ok.
qui fait plus de mal que de bien apparemment, selon la conclusion. Donc on va faire le thème CR7 avec une question flash. On se souvient bien sûr de la victoire portugaise à l'Euro 2016, mais qui les Portugais avaient battu en demi-finale lors de cet Euro?
Ah, pas mal.
Euro 2016.
Mm-hmm. L'Islande.
Non.
L'Islande, c'est quart.
C'était quart.
Mais il y a de l'idée.
C'était.
Il y a encore plus d'idées.
L'air.
Irlande du Nord.
Oh, il y a. Non.
Pays de Galles.
L'Angleterre, oui. L'Écosse.
Pays de Galles.
Pays de Galles, je me souviens.
1-0 pour Jérôme et Julien. Jean-Michel, pas de contestation. 1-0.
Allez, on ne me chauffe pas, toi. Ne commence pas à me chauffer à la première question. Hein.
Question costile.
Oh oui, Greg, il la sort. Oh oui, va opposer Richard.
Il est de retour. Il est de retour.
Oh, ça suffit.
Ah, ça suffit. Ah oui. À quel gardien d'une équipe française met-il un coup franc magnifique en 2009 en Ligue des Champions?
Lloris.
Ah non. Non et non.
Je l'aime.
Oui, victoire 3-1 au Vélodrome.
Un partout. Ça te fait rire? Un partout.
Ah non, mais c'est l'histoire du football français.
Entre Jérôme et le reste.
Mandanda, les coups francs à 40 mètres, il les voyait pas.
Moi, j'allais dire Nicolas Lambron, mais c'était pas.
Ouais. C'était un peu plus tard.
Parce qu'il me semble que je en ai mis un aussi de 35 mètres à Marseille.
Oh, un partout.
Mais bon. Allez, question.
Il avait du mal et il n'avait pas. Bon, il les voyait pas. Hein,
question flash.
Allez, question flash.
On est en 2009. Quel numéro avait-il lors de ce match?
Qui? Ronaldo? Qui?
Ouais.
7.
17.
Non.
Non.
12. Mais... 8, non. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
9, mais voilà, mais c'est comme Camara.
Michel, crack.
Ouais, mais ça, c'est accepté.
Bah
ça.
Oui, c'est accepté. Bah ouais,
bon, je suis obligé.
Bravo,
Jean-Michel.
2-1 pour le reste du monde.
C'est ce qui
bravo,
s'appelle s'accrocher, ça.
C'est voilà, borderline, mais c'est
il a raison, de jouer avec la règle.
Allez, question
auditeur. La borderline de l'autre équipe.
Oh là là. Allez, vas-y.
C'est limite en français.
Question auditeur, hein?
Ouais, question auditeur.
Christophe contre Julien.
Dans quel
allez,
club
Christophe.
Dans quel club CR7 a-t-il été formé?
Oh bah.
Malaga.
Malaga, au Portugal. Malaga au Portugal, oui.
Bien sûr.
Les plages portugaises de Malaga.
La brandade de morue de Malaga.
Bah oui. Ouais.
Pastéis de nata de Malaga.
Évidemment. Ouais. Et
On annule.
C'est pas ça, c'est pas
non,
ça
non, c'est pas nous ça non plus, c'était le Sporting Portugal.
On en reste à 2-1 pour le reste du monde.
Aïe.
2-1 pour Christophe et le reste du monde.
Ça fait longtemps, vous en avez parlé tout à l'heure. Question tir en dit compte.
Ah. Tu rendis compte si tu poses une question à un supporter italien qui dans quelques années, qui est cette plus forte?
Une grande pensée pour Coach Courbis qui se serait régalé dans cette Coupe du Monde avec nous.
Il remporte le championnat d'Italie en 2019, CR7.
Oui.
Quel coéquipier cette année-là est de retour à la Juve après un an au Milan?
Inzaghi?
Non, il joue plutôt derrière.
Non, derrière. Qui est derrière, Jean-Michel
Coéquipier d'où?
Chiellini.
Il n'y a pas de cheveux là.
Bonucci.
Bonucci.
Bonucci. Bonucci. Oh. 3-1 pour le reste du monde et pour Christophe.
Bravo Jean-Michel.
Ah, la fameuse routine, elle est de retour.
Regarde Benoît, elle est devant toi.
Elle souffle, souffle.
Là.
Allez, j'avance.
Top.
Statu quo. On touche à rien.
Allez, bon souffle.
Alors là, c'est la faute, t'as pas de chance.
Non, mais vous avez peur
de la faute. Tu t'es rattrapé.
Comment tu peux avoir
c'est la routine.
Non, mais. Je ne dirai rien.
C'est la routine.
C'est la routine.
C'est le hasard. Allez, victoire de Christophe. Voilà. Et du reste du
ça
monde,
3 bien sûr. Et monsieur bien sûr, rien. Il a perdu, monsieur bien sûr.
Et monsieur bien sûr a perdu. Jérôme et Julien, désolé pour Julien. Et bravo à Christophe qui remporte ce magnifique.
Bravo, bravo.
Tous contre Roten sur RMC avec le téléviseur Philips 50 PUS 9000. Technologie Ambilight, image QLED fluide, un spectacle immersif à chaque instant.
Merci à Jean-Michel Larquet, à Louis Gerbier, à Ben Costil. Et merci un point sur le direct, Tchéquie, Afrique du Sud. Le temps additionnel, Corentin Roland.
On est dans la troisième des 7 minutes de temps additionnel un partout entre la Tchéquie et l'Afrique du Sud. La Tchéquie a mené pendant 80 minutes après avoir ouvert le score à la 6e et égalisation donc à la 83e sur un pénalty concédé par Pavel Schulz et transformé par Mokoena. Depuis, la Tchéquie est repartie de l'avant, mais il y a toujours un partout pour le moment.
Merci Corentin, la suite et la fin de ce match dans l'After Live dans un instant. Et nous on se retrouve demain, toujours en direct de la brasserie Flora.
Ouais, merci Benoît, merci les deux Benoît, merci Jean-Michel, merci Louis. On s'est régalé pendant 2 heures comme d'habitude dans Roten sans flamme. On est de retour demain ici même au Flora, le Flora, sur les grands boulevards dans le 9e arrondissement de Paris à partir de 18h comme tous les jours de la semaine. On finit cette magnifique semaine demain, donc soyez là avec beaucoup beaucoup d'actu et des surprises. Allez, à demain.
RMC jusqu'à 20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.